Nous allons lire le psaume 34, 20-21. C'est notre passage de base pour aujourd'hui, psaume 34, 20-21.
Lisons la parole de Dieu dans le psaume chapitre 34, à partir du verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé.
Amen. Donc le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile qu'on entend dans le milieu chrétien. Pourtant, le texte est clair. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Donc ça vient souvent dans la vie du juste. Et le terme est très important, le terme juste. Et il est écrit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce n'est pas la défaite, ce n'est pas du défaitisme. Quand on dit que le malheur atteint souvent le juste, nous voulons faire comprendre que c'est un processus, c'est un travail que Dieu fait. Et il est écrit que l'Éternel l'en délivre toujours. Comme a dit quelqu'un dans un chant en anglais, « Through it all », hein, à travers tout cela, j'ai compris que Dieu veut que je marche par la foi. « Through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus ». Donc, avec toutes les difficultés de la vie, il a appris que c'était pour apprendre à croire en Dieu. C'était ça l'enseignement. Et il a dit dans le couplet, donc quand il y a eu les problèmes qui me sont arrivés, c'était parce que Dieu voulait que j'apprenne qu'il peut vaincre ces problèmes-là. C'est beau. Parce que s'il n'y avait pas eu ces problèmes, je n'aurais jamais su que Dieu était capable de délivrer de ce problème. Il y a Corrie ten Boom, elle qui a fait le camp de concentration, une Hollandaise, parce qu'elle gardait les Juifs, les Allemands l'ont amenée dans le camp de concentration. Sa sœur est morte dans les camps de concentration nazis. Bien aimé, quand on dit camp de concentration, il faut comprendre ce que c'est. Vous passez par des temps hyper difficiles dans le froid, le fouet, les travaux forcés. C'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a dit, Dieu a permis cela pour que je sache que même dans les pires ténèbres, la lumière de Dieu est plus forte. Puisque on lui dit, comment tu as fait pour rester chrétienne dans ces conditions-là. Elle a dit, il faut plutôt poser la question, comment il a fait pour me garder chrétienne? Amen. C'est Dieu lui-même qui nous garde. Donc ne soyons pas effrayés par cette prédication. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais il faut que nous entrions dans la vérité de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ça la parole de Dieu. La vérité vous rendra libre. La vérité n'est pas là pour faire peur, c'est pour nous rendre libres. Combien de chrétiens sont dans la souffrance et ils tournent en rond. Ils sont dans le compromis parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, que le malheur atteint souvent le juste. Ils croient alors que c'est une action diabolique exclusive et ils luttent par la chair, ils luttent dans le compromis. C'est là qu'ils finissent avec des faux serviteurs qui leur mentent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est le processus de Dieu. Ils vont chercher là où on va leur dire les paroles sucrées. Parce qu'ils n'ont pas compris la puissance de Dieu. L'Éternel l'en délivre toujours. Et pendant que l'Éternel n'a pas encore délivré, aucun os n'est brisé. C'est ça le verset 21. Aucun os n'est brisé. Prophétie aussi qui concerne la mort de Christ. Quand il est mort, on n'a pas brisé ses os. Alors que d'habitude, pour qu'un crucifié meure, on brisait d'abord les os. Mais Jésus est mort avant qu'on lui brise les os. Donc la prophétie de Psaume 34, 21 s'était accomplie. Nous allons lire Genèse 22, 1, 14.
Lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Voilà une histoire difficile. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et quand on dit malheur, il ne s'agit pas de se focaliser sur le diable. Le malheur peut venir de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Là, c'est un malheur. C'est Dieu qui dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Non seulement tu le tues, mais tu le brûles en holocauste. Ça, c'est un malheur. Apprendre ça. Mais Abraham est parti pour obéir. Bien-aimé, quand on lit de tels textes, qu'est-ce qu'on se dit? Mais Dieu a besoin de ça pour connaître qu'Abraham le craint. Il a vraiment besoin de qui sacrifie son fils, qu'il aille jusqu'à ce point-là, le tester jusqu'à ce point-là. C'est dur. C'est dur, mais c'est le chemin de la gloire. Abraham a reçu des promesses excellentes, des promesses importantes. Ça passait par le contrôle de Dieu sur sa vie. Dieu veut que nous reconnaissions que c'est lui qui a la prééminence sur nous, c'est-à-dire c'est lui qui est notre chef. Mais ce n'est pas une prééminence dictatoriale, hein, c'est une prééminence fusionnelle d'amour. C'est comme la tête. La tête a la prééminence sur les autres membres, parce que les bras, pour bouger, l'ordre vient du cerveau. Pour que je vous voie tel que je vous vois, c'est le cerveau qui interprète, ce n'est pas l'œil. L'œil n'est qu'une sorte de fenêtre, mais c'est le cerveau qui dit ça, c'est la couleur blanche, ça, c'est la couleur rouge. Donc le cerveau a prééminence. Cependant, c'est une prééminence pas d'opposition, pas de dictature, c'est une fusion. Ils fonctionnent ensemble. La tête fonctionne ensemble avec le reste du corps, même si la terre a la prééminence. Donc quand Dieu veut avoir la prééminence, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est parce que c'est juste, c'est lui qui est la source de tout. C'est logique. Et c'est surtout parce que loin de lui, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est les souffrances et les catastrophes. C'est à cause de ça aussi qu'il veut nous préserver, de chercher à être son égal. Et on se dit, mais pourquoi ma souffrance peut durer ainsi? Pourquoi? Vous savez, Job disait, mais pourquoi Dieu s'acharne sur moi? Au moins, lui avait compris que ce n'était pas le diable. Il avait compris que c'était Dieu. Beaucoup refusent d'admettre que c'est Dieu qui s'acharne sur eux. Ils préfèrent dire c'est le diable et ils entrent dans des combats spirituels sans fin. Alors que c'est Dieu qui s'acharne. Pourquoi ils refusent ça? Parce qu'ils se disent, mais moi je suis déjà juste. Pourquoi Dieu va s'acharner sur moi? Effectivement, Abraham était déjà juste. Lisons Genèse 15:6. Abraham était déjà juste. Le grand problème vient de là. Le malheur atteint souvent le juste. On se dit, mais pourquoi? Genèse 15:6.
Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice.
Voilà. Abraham a eu foi en Dieu. Et Dieu l'a considéré comme juste. Il lui imputa justice, ça veut dire Dieu l'a considéré comme juste. Donc Dieu considérait déjà Abraham juste avant l'épisode de Genèse 22. Mais on se dit, mais pourquoi alors qu'il le considère juste, faut-il encore l'éprouver comme ça? Et on préfère dire c'est le diable. Voilà. Comme ça, on dit qu'entre moi et Dieu, il n'y a pas de problème. C'est le diable qui m'attaque. Or, la Bible, dans d'autres passages, nous dit clairement les malheurs et les bonheurs, les bienfaits viennent de Dieu. C'est la Bible. Mais si on reconnaît que c'est Dieu, on va se dire, c'est qu'il y a chez moi, il y a encore un problème. Et on se dit, mais non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je ne pêche pas, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne vois pas. Qu'est-ce que Dieu cherche encore? C'était ça le problème de Job. Il cherche quoi encore? Moi, je suis correct. Et combien de gens, en tant que pasteur, on a discuté avec eux, ils nous l'ont dit. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il veut, Dieu, parce que moi, parce que quand nous, on leur a dit, bien sûr, que c'est Dieu, ils nous rétorquent. Mais oui, mais je ne vois pas le problème, puisque moi, je suis correct. Je ne vois pas le mal que j'ai fait. Ce n'est pas un problème de mal. C'est un problème de gloire et c'est un problème de prise de contrôle, de qui a la prééminence, qui est le chef. Parce que sans Dieu, ta petite gloire va mourir. La gloire que tu veux protéger là, sans Dieu, elle va s'effriter. Alors Dieu veut que tu apprennes que c'est lui ton chef. C'est lui le chef. C'est ça, c'est juste ça le problème, oui. Dieu veut que nous sachions pour chacun de nous que c'est lui notre chef. C'est pourquoi il me maltraite comme ça, oui. Il veut que tu apprennes que c'est lui qui t'a donné ce corps-là. Les enfants, c'est lui qui t'a donné. Et quand tu sais ça, tu sais aussi que personne ne peut toucher parce que c'est à Dieu. Tu montes en gloire. C'est le deuxième objectif de Dieu. Il veut partager sa gloire avec toi. Il veut partager sa gloire. Jésus a dit à ses amis, les disciples, il a dit, beaucoup de gens ont cherché à entendre ce que vous entendez. C'est une richesse extraordinaire ce que vous entendez de ma bouche. Les rois auraient aimé entendre ça. Il dit, il y a des gens qui faisaient des kilomètres pour venir visiter Salomon à cause de ses paroles. Mais ici, il y a plus que Salomon. La gloire de Dieu, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout. On a vu comment finit la gloire de l'homme. La plupart l'ont vu hier vers 23 heures. On a vu comment la gloire de l'homme est tombée. Usain Bolt est sorti troisième. La gloire de l'homme est tombée. Mais la gloire de Dieu ne tombe jamais. Dieu veut nous amener à cette dimension-là. Ça passe par une prise de contrôle de notre vie. Cela est juste parce que nous lui appartenons. Imaginez que le bras n'obéisse plus au cerveau. On finit où ? Le bras n'obéisse plus, la jambe n'obéisse plus au cerveau. On finit où ? C'est juste ça que Dieu veut. Une prééminence fusionnelle. Donc une fusion, mais avec lui le chef. Et cela est juste parce qu'il est la source. Cela est juste parce que c'est lui qui est Dieu, c'est pas toi qui es Dieu. Lisons Luc 18, à partir du verset 18.
Lisons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. »
Amen. Bien-aimé, on se dit, le monsieur était correct, non ? Il obéissait à la loi. Mais pourquoi l'embêter jusqu'au point de lui dire de tout vendre quand même ? Le monsieur est correct, il ne pêche pas. Et Dieu, on s'attaque à ses sous, à sa richesse. C'est ça notre raisonnement. Il me cherche quoi ? Mais parce que Dieu avait compris que cet homme était bon, était juste. Mais il fallait, et Dieu voulait déverser sa gloire dans sa vie. Mais il y avait un obstacle, c'était sa richesse. Sa richesse lui donnait une sensation d'autocontrôle, d'autogestion. Ça allait empêcher que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ça le problème. Alors Dieu, il est écrit, Jésus aima cet homme, n'est-ce pas ? On a lu. Il l'a aimé quand il a entendu. Il savait, puisqu'il connaissait tout le monde. Il a aimé, il a dit, cet homme veut de Dieu. Mais il tient encore aussi à sa richesse qui est sa force. Alors Jésus lui dit, vends tous tes biens et suis-moi. Parce qu'on peut se dire, mais l'homme est correct. C'est ce qu'on se dit tout le temps. Mais je suis correct, pourquoi Dieu me fait traîner dans telle chose ? Je pense faire bien les choses. Pourquoi ma femme ne change pas? Pourquoi mon mari ne change pas? Moi, je pense faire bien. Mais c'est toi qui penses faire bien. Est-ce que Dieu a dit son mot? A donné son avis? C'est toi qui te trouves correct. Et au lieu de reconnaître que le problème, c'est avec Dieu, on dit non, 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 non. C'est ma femme qui est mauvaise. C'est mon mari qui est mauvais. C'est mes enfants qui sont mauvais. C'est les autres qui sont mauvais. C'est eux le problème. Alors que c'est toi qui as un problème avec Dieu. C'est ça la prédication d'aujourd'hui. La reconquête de l'homme. Dieu veut reconquérir l'homme. L'homme, c'est le chantier de travail de Dieu. L'homme a une importance extraordinaire. On a trop navigué dans des bateaux qui nous ont parlé du nombre, du ministère, du succès. Dieu ne s'intéresse. Tout ça, c'est secondaire pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est un homme. Un homme. Bien-aimé, le péché est venu comment? Par un seul homme. Que cela nous enseigne sur l'importance d'un humain. Un seul humain en péchant a entraîné le mal dans tout l'univers. Dans l'univers, il n'y avait pas de tremblement de terre, il n'y avait pas d'accident. Tout était beau, parfait. C'est le péché d'Adam qui a touché tout ça. Ça veut dire quoi? Adam, tel qu'il était là, ben, c'est comme si l'univers était en lui, puisque en touchant Adam, ça a touché l'univers. Chaque homme est important. Or, quel a été le péché de l'homme? Le refus que Dieu soit son chef. C'est ça qui a été le péché de l'homme. Les histoires de voler, ça n'existait pas, parce qu'Adam allait voler le bien de qui? Il allait prendre la femme de qui? Il allait injurier qui? Tout ça, c'est venu après. Le premier péché, c'est Adam qui est séduit par le diable qui lui dit, tu peux devenir toi-même Dieu. C'est-à-dire te contrôler toi-même, te gérer toi-même. C'est ça le premier péché. Et Dieu est maintenant dans le travail de reconquête. Il veut récupérer son homme qui lui avait échappé. Par sa propre bêtise, à lui l'homme, Dieu a envoyé son fils Jésus pour justifier l'homme, pour ne plus tenir compte du péché de l'homme. Maintenant que nous sommes justifiés, il y a un deuxième travail, c'est le travail de la reconquête, où Dieu veut être en nous, assis sur son trône, mais en nous. Oublie aujourd'hui ton ministère. Oublie aujourd'hui tes diplômes. Oublie aujourd'hui tes richesses. Dieu veut te conquérir, toi. Il veut te récupérer. Il y a encore des traces de contrôle dans nos vies. Il y a encore des traces de force personnelle. Dieu veut éliminer tout ça. Car on ne peut être sauvé que par grâce. On ne peut vivre la gloire de Dieu que lorsque il prend contrôle de nos vies. Je ne suis pas en train de dire que pour vivre la gloire de Dieu, il faut être parfait. Non, mais il faut que Dieu prenne contrôle de ta vie. Il faut qu'il soit ton maître, il faut qu'il soit ton chef. Il faut qu'il soit le roi dans ta vie. Oublie qu'il soit pour le moment le roi dans tes enfants, dans ta femme, dans ton mari, qu'il soit le roi de ta vie. Le problème que tu as, c'est un problème lié à une lutte entre toi et Dieu. Dieu veut te reconquérir et il se sert de toutes les souffrances qui t'entourent pour cela. Il veut t'amener à lâcher prise, mais toi tu ne veux pas, tu luttes et tu accuses les autres. Dans le psaume 105, c'est écrit, hein, puisque... Je n'ai pas donné la référence à la vidéo, je vais chercher. Psaume 105. Dans le psaume 105, on commence par la première partie. Il dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et j'aime le verset 4 qui dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Chercher continuellement sa face. C'est la face de l'Éternel qu'on doit chercher et non les accusations sur les autres, sur tout ce qui nous entoure. C'est la face de l'Éternel qu'on doit chercher. C'est lui qui peut tout résoudre. Continuellement chercher la face de l'Éternel. Et il dit par rapport à son peuple, c'est toujours dans le psaume 105, celui qui nous trouvera peut nous aider, où il dit carrément qu'il a fait que les gens, verset 25, il change, verset 24, il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il est écrit que Dieu a influencé les gens pour haïr son peuple. C'est Dieu qui influence les gens pour haïr son peuple. Donc, quand les gens te manifestent une certaine détestation, c'est Dieu qui les influence aussi, peut-être, tu ne sais pas. Pour t'amener à quoi ? À chercher continuellement sa face. Rester dans sa présence continuellement. Et nous ne voulons pas. Nous voulons avoir des réserves de Dieu en poche. Quand on a besoin, on sort. C'est nous qui contrôlons. C'est dans les poches. Nous ne voulons pas rester devant sa face, c'est lui qui brille, et il nous touche. Non, nous voulons l'avoir dans les poches, dans les valises. Quand on a besoin, on ouvre, on sort. Dieu dit non, c'est moi le chef. C'est moi la source. Vous devez juste vous positionner et moi, je vous abreuve. Je vous éclaire. Mais nous, on veut contrôler. Mais Seigneur, ça fait des années la chose continue. Ça fait des années, ça ne change pas. Oui, tu as un problème avec Dieu. Dieu veut que tu cherches sa face. Toi, tu crois que tu as déjà tout donné. C'est ce que toi, tu crois. Dieu te révèle que tu n'as pas tout donné. Il veut encore prendre quelque chose afin que s'accomplisse le fait que c'est lui qui est en prééminence, c'est lui qui est le chef. Et afin qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas... La gloire, c'est plus que le miracle. Vous savez, la... Dieu a fait des miracles sur beaucoup de gens. Il y a des lépreux qui ont vécu des miracles. Mais ces lépreux-là, ils n'étaient pas parfaits. Et ils ont profité, bénéficié de la gloire. Mais ils n'ont pas expérimenté. Ce n'est pas passé par eux. Mais quand Pierre dit, « S'il verra un God, et Vainon, » Pierre dit, « Je n'ai ni or, ni argent. » Voilà la gloire. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Ça, c'est des gens qui sont entrés dans la gloire. Parce que le Seigneur a pris contrôle de leur vie. Vous savez, il est écrit dans Luc 5, 11, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Ils ont tout abandonné. Vous savez, les gens comme Pierre avaient des femmes, dont 3 ans à suivre Jésus. C'est des gens qui avaient... Vous êtes témoin que Pierre n'était pas parfait. Combien d'exemples nous avons de ses erreurs? D'ailleurs, souvent, certains chrétiens demeurent imparfaits parce qu'ils se servent des erreurs de gens comme Pierre. Au lieu de suivre Jésus-Christ comme unité de mesure, eux, c'est devenu Pierre. Mais oui, mais Pierre aussi était collé. Mais non, mais qui t'a dit qu'il fallait imiter Pierre? Il faut imiter Jésus. Mais dans son imperfection, c'est Dieu qui contrôlait sa vie. Ça fait toute la différence. C'est des gens qui ont tout abandonné. Mais comment on va savoir que tu as tout abandonné? C'est à travers les souffrances, les difficultés, les chemins compliqués par lesquels Dieu va te faire passer et que tu continues à lui faire confiance, que c'est sous contrôle et tu obéis. Tu dis, ben c'est pas grave, c'est pas comme je veux, mais j'obéis. Je n'ai pas le mari qu'il faut, mais j'obéis, c'est trop tard. On a déjà... Vous savez, quand on fait les grosses fêtes, je vois les mariages, comment ça change les gens, ça devient des grosses fêtes compliquées. Ben, après ça, il faut tenir jusqu'au bout. Hein. Faut pas commencer. Ah ben, mais ce jour-là, tu avais acheté une robe de 1500, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Oui, mais il est compliqué. Mais oui, mais la Bible dit, femme, soyez soumise. Mais il est compliqué. La Bible dit, tu aimeras ta femme comme Christ, hein, à aimer l'Église. On se dit, mais moi, je ne pêche pas, je ne vole pas, je fais ce qu'il faut. Mais le jeune homme riche faisait aussi tout ce qu'il fallait. Mais il avait un problème, c'était son argent, c'était ses richesses, c'était aussi sa force. Et Dieu voulait le dépouiller de la force personnelle pour que lui il règne totalement, totalement. C'est ça, bien-aimé. Il y a des gens, on voit dans la Bible, il est écrit, ils ont aimé la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. Ils savaient que Jésus était dans la vérité, mais pour être bien avec leur mari, bien avec leurs parents, bien avec leur femme, bien, ils ont pris juste le miracle de Jésus. Vous savez, les parents du fils de Jean IX qui était aveugle de naissance, ils ont dit, ah non, ben, il faut lui poser la question lui-même. Ils n'ont plus, ils n'ont pas, pourtant leur fils, Jésus lui a redonné la vue. Mais ah, mais oui, mais poser lui-même la question. Ils ont eu peur des hommes. Et Dieu dit, tu as encore peur. Moi, je vois des jeunes là, pendant l'adoration. C'est nous les vieux qui devenons les jeunes. On est debout, on chante. Les jeunes sont là. Moi, je dis, mais c'est des jeunes à cet âge, des cow-boys fatigués. Je suis parti même dans une rangée dire, mais vous là, les filles là, vous criez tout le temps. Mais allez, c'est quoi ces jeunes pendant le culte d'adoration? Tout ça parce qu'ils se disent, si je me lève, les autres ne se sont pas levés sous influence, sous contrôle des autres. Il a peur des autres pour glorifier Dieu. Donc il faut faire comme tous les jeunes. Faire le fier. Ah, bien-aimé, tu feras le fier en enfer. Le démon va te gifler matin et soir. Fais le fier là-bas. Le ciel est gratuit. Ne laisse personne t'empêcher d'entrer dans le ciel. La justification est gratuite. Abraham a été considéré juste à cause de la foi. C'est facile. Être sauvé, c'est facile pour nous. Mais ça a été difficile. Pour le Seigneur, il a souffert terriblement. Mais pour nous, c'est facile. Mais Dieu veut nous faire passer à une autre étape, l'étape de la gloire. Et ça demande le contrôle de nos vies. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Sanctification ne veut pas dire ne pas pécher. Ne pas pécher fait partie de la sanctification. Sanctification veut dire mise à part. Ça veut dire que même si tu ne pèches pas par rapport au péché connu, tu peux ne pas être saint, mais tu ne pèches pas par rapport au péché qu'on connaît, voler, ne pas mentir, tout ça. Tu es correct là-bas, mais le monsieur de Luc 18, il était correct par rapport à la loi, mais il n'était pas saint. Parce qu'il manquait un commandement de la loi, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il n'était pas prêt à tout vendre pour le Seigneur. Donc il avait un problème. La sainteté, c'est que Dieu contrôle ta vie. Ce n'est pas les autres jeunes qui t'influencent, mais c'est toi-même. Avec Dieu, tu marches avec le Seigneur. Tu ne te lèves pas parce qu'on te demande de te lever, tu te lèves parce que Dieu est grand. Il y en a qui se lèvent quand ils ont vu 3 ou 4 personnes se lever, lui aussi se lève. Oh, zéro. Mais c'est ça. Il voit, lui aussi se lève. Non. Lève-toi par rapport à Dieu. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Il y en a qui, avant de parler, de louer Dieu, ils regardent si son voisin le fait d'abord. tu es encore sous contrôle. Dieu veut prendre le contrôle de nos vies. Il veut manifester sa gloire. La mort est personnelle. Hein. Que personne ne vous trompe. Le travail de sanctification, c'est personnel. N'attends pas de faire à deux. Fais le travail dans ta vie. Laisse Jésus faire le travail dans ta vie. Il y en a qui attendent de faire ça à deux, avec sa femme, avec son mari. Il faut que ça aille ensemble. Ah non. Dieu te cherche toi d'abord. Laisse-toi travailler toi d'abord. L'homme a une grande importance dans l'univers. C'est ça la réalité. Et Dieu veut récupérer chaque homme. Il veut qu'on arrive au point de dire, comme Jésus, j'aime beaucoup Jésus, il dit, Seigneur, est-ce que tu pourrais enlever cette épreuve devant moi, mais que ta volonté s'accomplisse. C'est ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous qu'on dise, Seigneur, ça devient très difficile, mais que ta volonté s'accomplisse. Le Seigneur, à la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est les mêmes questions que quand on est éprouvé. C'est la même question qui revient chez le juste. Parce qu'il sait qu'il est juste. Mais là, il ne comprend pas pourquoi tel malheur doit lui arriver. C'est pourquoi notre passage de base, c'est quoi? Le malheur atteint souvent le juste. C'est écrit. Mais dans notre, comment dire, dans notre mémoire générale humaine, on est dans la logique des œuvres. C'est-à-dire, quand quelqu'un est correct, rien ne doit lui arriver. Au fait, c'est comme une sorte de mathématique qui est dans notre tête. Si je fais les choses bien, la suite sera bonne. Et quand le malheur arrive, on dit, mais il y a une contradiction, mais c'est une contradiction humaine, ce n'est pas une contradiction biblique. On doit changer de mentalité. En fait, chaque malheur, c'est l'occasion d'aller plus loin avec Dieu. Dieu veut aller plus loin avec toi. La mort de Jésus, c'est parce que Dieu avait voulu manifester la résurrection qu'attendait Abraham quand il amenait Isaac au sacrifice. Il est écrit dans Hébreux 11, Abraham s'attendait à ce que Dieu ressuscite Isaac. Abraham n'a pas vu ce miracle-là. Dieu a arrêté ça avant. Donc, à chaque fois que Dieu arrête l'épreuve, puisque tu cries beaucoup, il arrête aussi la manifestation de sa gloire que tu allais voir. Abraham n'a pas vu ça. Parce que Dieu a dit, stop, ça me suffit. Je sais que tu m'aimes maintenant. Tu es prêt à sacrifier ton fils. Abraham n'a pas vu la résurrection. Il a vu un esprit, c'est tout. Mais Jésus devait vivre la résurrection. Alors il fallait la mort. Tout ce qui nous arrive comme malheur, c'est l'occasion d'aller plus loin avec Dieu afin qu'il manifeste sa gloire. Mais le raisonnement humain dit, je ne comprends pas. Pendant toutes ces années, ça a été bien. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu a tout m'a lâché. Non, tu n'as pas. Il veut t'amener plus loin. Il veut t'amener plus loin. Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Il veut manifester sa gloire. Il est écrit, la gloire, sa gloire remplit toute la terre. Et Dieu, bien-aimé, répond aussi à quoi? Il répond à nos prières cachées. Beaucoup de malheurs qui nous arrivent, c'est la réponse à nos prières cachées. Quand je dis cachées, c'est-à-dire des prières qu'on a oubliées. Un jour, tu as dit, Seigneur, nous voulons voir la Normandie sauvée. Mais bien aimé, tu sais ce que ça engage que la Normandie soit sauvée? Ça engage que toi, tu sois un canal pour que la Normandie soit sauvée. Et donc, quand Dieu commence les malheurs dans ta vie, il travaille pour amener à ce que ta propre prière s'accomplisse. Un point, c'est tout. Un monsieur s'est retrouvé un jour à cause d'une maladie incurable dans une réunion de prière chrétienne. Et puis, à la fin, il est parti voir le pasteur pour la prière de guérison. Le pasteur lui a dit, mais si tu as ce problème, c'est parce que on n'a pas dit que c'est tout ça. Ça sera toujours le cas pour tout le monde. Hein. C'est chacun son cas. Il a dit, parce que tu es dans une désobéissance par rapport à une promesse que tu avais faite à Dieu. Lui, il a dit, mais moi, je ne suis pas chrétien. Comment j'ai fait une promesse à Dieu? Le pasteur a dit, c'est ce que j'ai reçu, c'est ton problème avec Dieu. Il est rentré chez lui, il a réfléchi, il a cherché la face de Dieu, il a reçu la réponse. Un jour, il se noyait dans une rivière, il a dit, Dieu, si tu me sauves, je te servirai. Parce qu'il n'était pas chrétien lui-même, mais il était dans un milieu chrétien. Il connaissait la parole, il connaissait ce que les gens disaient. Il a dit, Dieu, si tu me sors de ce problème, de cette noyade, je te servirai. Lui l'a oublié. Bien des années plus tard, maladie incurable. C'était quoi? C'était pour l'amener à nouveau vers Dieu, le guérir et le faire de lui son enfant maintenant, accomplir ce que lui-même avait fait comme prière. C'est simple. C'est Dieu qui veut accomplir ce que tu as un jour demandé. Tu dis, Seigneur, nous voulons que le paralytique marche, mais Dieu va commencer par toi. Un petit bobo sérieux pour qu'il te guérisse toi-même, que tu comprennes qu'il guérit. C'est ça, bien-aimé. Dieu va te commencer par toi pour que tu comprennes ce que les autres souffrent aussi. Pour que tu n'ailles pas distribuer des guérisons comme on distribue des gâteaux. Mais tu comprennes que c'est un processus d'une vie. Il faut que toi-même tu saches cela. C'est ce qui est écrit de Jésus. Nous allons lire. C'est le passage qui clôture tout concernant le Seigneur Jésus. Dieu veut nous amener loin. Il veut nous conquérir pour nous amener loin. Voilà son objectif. Il te cherche, Dieu. Tu te dis, mais il m'avait déjà trouvé. Oui, il t'avait trouvé, il t'a amené au salut. Maintenant, il te cherche pour habiter en toi. Habiter en toi. Lisons 1 Roi 8, 27.
Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie ?
Ça, c'est qui parle ? C'est Salomon. Salomon dit, mais à quoi ça sert qu'on fasse ce temple ? On le fait quand même, mais Seigneur, toi, même les cieux des cieux, c'est-à-dire tout l'univers ne peut te contenir. En combien plus forte raison le temple qu'on est en train de construire. Maintenant, nous lisons Éphésiens 2, 22. On a bien lu, hein? Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas habiter même l'univers. L'univers est plus petit que lui. Maintenant, lisons Éphésiens 2, 22.
Éphésiens chapitre 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit.
Amen. Une habitation de Dieu en esprit. En lui, c'est-à-dire chaque humain. Hein. Lisons 1 Corinthiens 3, 16, que l'on connaît.
Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Amen. Donc, le Dieu qui est trop grand pour habiter tout l'univers peut habiter dans un homme. Est-ce qu'on peut comprendre? Le Dieu qui est, l'univers est trop petit pour contenir Dieu. Mais Dieu peut habiter dans un homme. C'est lui-même qui le dit. Ça veut dire l'homme est quoi? L'homme est une créature très très grande. Toute cette grandeur a été mise dans un corps. Mais c'est une créature très grande. N'est-ce pas ce qui est écrit? L'homme a été créé comment? À l'image? Ah! C'est ainsi qu'il peut habiter dans l'homme parce que l'homme a été créé. Donc, on est petit comme ça, mais chacun de nous peut faire habiter Dieu en lui. Ça veut dire qu'on a une autre dimension qu'on ne voit pas. Dieu veut habiter dans chaque homme. Vous savez, on a souffert avec le faux évangile du nombre, où on est là à insister sur le nombre. Alors que Dieu, lui, cherche un homme dans lequel il peut habiter. Et c'est toi. Parce que quand on est dans l'évangile du nombre, on est sans cesse en train de regarder devant nous. On est 1000, on est content. On est 10 000, on est content. Mais Dieu, lui, il est content quand il peut être chez un homme. Dans un homme. C'est son boulot. Il y avait combien d'hommes quand il a fait les cieux et la terre? Il n'y avait qu'un seul homme. Donc, si tu étais seul, Jésus allait-il venir pour te sauver? Oui ou non? Tout le monde dit oui. Il y a quelqu'un qui a dit non. C'est grave. Donc, si tu étais seul sur la terre, Jésus serait quand même mort à la croix pour ton salut. Parce que seul, malgré le fait que tu sois seul, Dieu peut habiter en toi. Mais comme on est nombreux, il habite dans nous nombreux. Mais seul, Dieu peut habiter en toi. Remarquez, à chaque fois qu'il y a le nombre dans le Nouveau Testament, quelle est la réaction de Jésus? C'est une réaction de discernement et de méfiance, toujours. Dans Jean chapitre 2, au verset 25, quand il y a le nombre, Jésus dit, il y avait du nombre, mais il ne leur faisait pas confiance parce qu'il connaissait leur cœur. Ce qui importait pour Jésus, qui lui, Jésus cherchait une habitation. C'est comme si vous entrez dans chaque maison, ça sent mauvais, mais il y a plusieurs maisons. Les gens vont voir à distance que tu es dans un pays où il y a de belles maisons. Mais toi-même qui es dans le pays, à chaque fois que tu ouvres, tu reçois une gifle. Mais combien de... on critique un peu notre pays. Donc on voit de Français, quand ils vont à l'étranger, ils aiment rester là-bas, dire « Mais là-bas, c'est accueillant, les gens t'ouvrent la porte. » Effectivement. Ici, essaye d'aider même quelqu'un. La personne se fâche alors que tu veux l'aider. Tu veux laisser la place à quelqu'un dans le bus, il se fâche. Tu frappes à la porte, la personne te regarde avec méfiance, donc c'est la guerre. Il y a beaucoup de maisons, mais on ne connaît pas les voisins. Beaucoup de voisins, mais on ne se parle pas. À quoi ça sert à Dieu d'avoir une foule devant lui? Lui, il cherche une habitation, il ne cherche pas la foule. Quand il veut entrer dans tel homme, il sent que oh, il est venu pour les miracles. Il veut entrer dans tel autre, il est venu pour telle chose. Ce qui importe à Dieu, c'est une personne là où lui peut habiter. C'est ça qui l'intéresse. Est-ce que Dieu peut habiter en toi? C'est ça la question d'aujourd'hui. Est-ce que tu lui as laissé la place? Ou bien tu as encore ta force personnelle, tes idées personnelles, ta logique personnelle? C'est ça la question. Alors Dieu va permettre des souffrances, il va permettre des difficultés, afin que tu finisses par reconnaître, après tout, je suis à Dieu. Comme Job au début avait reconnu, il a dit à sa femme, c'est Dieu qui a donné, il a repris, béni soit son nom. Je suis à lui. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Il a compris ça. Parce que quand tu dis ça, Dieu est content. Il dit, j'ai trouvé une habitation. Par la suite, ça a duré. Et quand ça dure, je suis le premier à expérimenter ça. Quand l'épreuve dure, on se fatigue et on fait encore les mêmes bêtises. Après, on se répand. Puisque ça a duré, Job a un moment craqué. Mais l'idée de base de Job, c'est que je suis à Dieu, qui dispose de moi comme il veut. L'idée des amis de Daniel, c'est que nous sommes à Dieu. S'il a jugé qu'on le loue dans la fournaise, on le louera dans la fournaise. Mais ils sont sortis indemnes. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que Dieu habite en nous. Que ce soit dans la fosse au lion, que ce soit dans la fournaise. C'est important, Dieu cherche une habitation. Il ne cherche pas le nombre. Il cherche une habitation. Il ne cherche pas les gens qui vont venir par tradition, par religiosité, par coutume, venir le dimanche à l'église. Il veut habiter chez toi. Et comment il va y habiter? En te montrant qu'il a le contrôle sur ta vie. Et il va se servir des gens qui t'entourent, qui vont te donner des ordres iniques, qui vont avoir des comportements difficiles avec toi. Il va se servir d'eux. D'où l'importance de la communion fraternelle. Il y a des gens qui fuient la communion fraternelle parce qu'ils n'aiment pas les chocs, mais ces chocs-là sont nécessaires pour nous amener à être sous contrôle de Dieu afin que sa gloire se manifeste. Il va se servir des gens qui nous entourent. Tu n'aimes pas le repassage, il va t'amener à repasser. Tu n'aimes pas cuisiner, il va t'amener à cuisiner. Mais toi, tu n'aimes pas cuisiner, qu'est-ce que tu trouves comme pirouette? Ah non, il faut manger light. Non, en réalité, tu n'aimes pas cuisiner. Comme pirouette, McDo, pirouette, KFC, cuisine. Parce que Dieu veut prendre contrôle. C'est-à-dire, tu fais ça, Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tu es en train de cuisiner avec une petite colère, mais tu cuisines quand même pour l'Éternel. Voilà. Il y a des gens qui veulent faire tout bien. Non, il y a des moments, on va obéir, mais on n'est pas à 100% heureux. Mais on obéit quand même. Amen. Ce qui est important, c'est l'obéissance. Après, nous voulons la joie de l'obéissance. Mais beaucoup de gens n'obéissent pas sous prétexte qu'ils n'ont pas la joie de l'obéissance. Donc, ils attendent d'avoir la joie. Mais non, on obéit quand même, on se soumet. On a dit dans le livre d'Ézéchiel, hein, l'esprit l'entraînait, il était irrité. Il était irrité, mais il obéissait à l'esprit. L'esprit l'entraînait lui-même parce qu'il connaissait la mission qu'on lui confiait par Dieu. C'était une mission difficile. Parler à des rebelles, parler à des gens têtus. Il connaissait ça. Il dit, mais Dieu, il m'amène où? Mais il se laissait faire quand même. Hein. En boudant, il se laisse faire. Parce qu'en chemin, la joie va venir. Il y a des gens qui veulent qu'il y ait la joie avant tout. Non, on obéit d'abord et le reste vient après. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Le Seigneur va se servir de notre entourage pour nous contraindre à accepter que c'est lui qui est notre chef. Il s'est servi des gens pour crucifier son fils, pour le contraindre à accepter que c'est lui qui est le chef. Et la tâche était bien plus difficile pour le Seigneur Jésus. Parce que lui, il avait la capacité de vaincre tous ceux qui venaient le combattre. Mais il a dû mettre sa capacité en berne. Mais nous, parfois, on n'a même pas la capacité, mais on veut lutter dans la tête, dans la colère, dans la haine, dans l'orgueil. Au lieu de dire, bon, et oui, là aussi le diable te dit que tu n'as pas la capacité. Et on veut répondre au diable en prouvant qu'on a la capacité. Et on perd notre temps. Juste capituler, dire, j'appartiens au Seigneur. I belong to Jesus. J'appartiens au Seigneur. Que sa volonté s'accomplisse. Ce n'est pas un manque de foi. C'est une confiance plutôt en Dieu pour dire, il fera, il est tout puissant. On nous a appris à vouloir créer notre propre foi, nous inventer des choses pour se sentir fort. Il faut arrêter avec ça. C'est Dieu qui est la source de tout. J'aime l'histoire de la piscine de Bethesda. Le monsieur, les gens qui étaient là, ils attendaient que l'ange bouge l'eau. Personne n'allait bouger ça par lui-même. Il savait que c'était vain de bouger l'eau par soi-même. Il fallait que l'ange bouge l'eau pour qu'il y ait des guérisons. Les chrétiens aujourd'hui veulent bouger par eux-mêmes les choses. Il faut prier. Mais c'est Dieu qui manifestera sa gloire. On n'a pas à se l'inventer soi-même. Dieu veut nous amener plus loin et il va se servir des souffrances. C'est ça la sanctification. Il va se servir des malheurs. C'est ça la sanctification. Mais il y en a des gens qui vont dire, mais ça dure en fonction de ton appel. Ça dure en fonction de ce que Dieu attend de toi. Ça dure parce que parfois tu n'es pas attentif à ce qu'il te dit. Sois attentif à ce que Dieu te dit. Ça dure parfois parce que tu résistes. Mais ça dure aussi parfois parce que Dieu veut te faire expérimenter une plus grande gloire et il ne veut pas de chemin de retour. Il ne veut pas, vous savez, beaucoup de gens, ils crient à Dieu quand Dieu agit, ils disent, mais je n'aurais pas voulu que tu fasses autant, mais pourtant c'est eux qui avaient crié. Et Dieu peut vouloir qu'on crie pendant longtemps, qu'on parle pendant longtemps pour qu'on soit jugé par nos propres paroles. Les enfants d'Israël avaient crié à Dieu, Dieu les a sortis d'Égypte, mais ils ont contesté quand même. Bien-aimés, posons-nous les questions. Pourquoi demander aux gens? Voilà des choses comme ça. Demander aux gens d'aller conquérir toute une ville qui a des murailles très hautes, juste en chantant. On dit, ah, pourquoi quand on lit ça, on dit, mais pourquoi Dieu complique les gens comme ça? Vous vous imaginez, quand même, la plupart sont des pères de famille, ces soldats-là. Tu dis à ton fils à la maison, demain on va aller en guerre, mais c'est en chantant qu'on va gagner. Toi-même, tu sens que mon fils va me prendre pour qui, là? Au fait, c'est Dieu veut que tu paraisses bête devant ton fils. Ça prouve que tu es sous son contrôle. Et vous imaginez les gens de Jéricho qui les voyaient en train de tourner. Ils rigolaient, ils disaient, mais voilà où ils en sont arrivés. En tourner comme ça, à tourner, ils pensent vraiment nous vaincre. Quand Goliath a vu David, il a dit, mais voilà, les Juifs sont devenus fous. Il m'envoie ce petit garçon-là, c'est des irresponsables. Il m'envoie un petit garçon. C'est des irresponsables. Ça, c'est Dieu qui confond l'intelligence des humains. Il veut qu'on apprenne qu'il est au contrôle. On pense souvent qu'on va régler un problème financier par la voie A, ça finit par venir par la voie K, par la voie Z. C'est comme ça. Dieu veut que tu apprennes que c'est lui qui pourvoit. Ce n'est pas tes raisonnements, c'est lui qui pourvoit. Il veut que tu pries. Il veut être au contrôle. Il veut t'amener plus loin. Mais il faut que tu cèdes à lui. Il faut céder. Il faut chercher la communion avec le Seigneur. Le Seigneur veut manifester sa gloire. C'est très important. Et parfois, quand on a beaucoup attendu, on finit dans les compromis, on finit dans la médiocrité, dans les doctrines humaines, parce que nous sommes fatigués d'attendre la gloire qui vient du ciel. Et Moïse a commis ce péché-là. Ça devait énerver les gens. Ils se disent, mais il nous a sortis d'Égypte où on mangeait bien et on se retrouve au désert. Il n'y a pas d'eau. Ces gens-là devaient se dire, mais qui est ce Dieu pour se contredire comme ça? Mais Dieu leur dit dans Deutéronome 8, c'était afin que vous appreniez que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole venant du Seigneur. Dieu veut qu'on apprenne à régler nos problèmes par les versets bibliques. Tu lis, il n'y a pas forcément la foi au début, mais tu prends Dieu au mot. Bien aimé, quand nos avocats ils plaident dans les tribunaux, est-ce qu'ils ont la foi dans le juge? Le juge n'a qu'à être mauvais, mais les textes sont les textes. Les textes sont les textes. Quand vous payez votre billet d'avion sur Internet, est-ce que vous vous dites à l'aéroport, ça peut changer? tu payes, tu annonces à tout le monde que tu voyages le 15. Mais tu as payé à travers un ordinateur, tu n'as pas vu d'humain. Hein? Mais tu as foi qu'à l'aéroport, ça va passer. Mais pourquoi tu ne veux pas avoir foi en la parole? Je suis humain. Je sais que parfois on lit, ça semble sans effet dans nos cœurs. Mais Dieu veut qu'on dépasse la sensation, qu'on entre dans le sérieux, qu'on comprenne qu'il est sérieux. On ne blague pas avec lui, ce qu'il a écrit est vrai. On doit le prendre au sérieux. On doit vivre par la foi. C'est écrit, c'est écrit. Je vais travailler ça dans la prière jusqu'à ce que la paix vienne. On doit prier, prier jusqu'à ce que la paix vienne. Il veut nous amener plus loin. Il veut habiter en nous, lui le grand Dieu, afin de produire des fruits extraordinaires. Nous clôturons avec Hébreux 5, 7 à 9.
Lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel.
Amen. Comment Dieu, Jésus, nous a sauvés? Parce que lui-même est passé par le brisement, la souffrance. On dit ceci, dans les jours de sa chair, quand il était physiquement sur terre, il a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus a prié avec grand cri à Gethsémané. Il a prié, il s'est humilié. Alors que lui-même dit dans Jean 10 que personne ne m'ôte la vie, moi-même je la donne. Mais en ce moment-là, il s'est écarté de sa nature divine pour dire « je me laisse faire ». Et il a crié à Dieu, il a prié, il y a eu du sang qui est sorti de lui. Il s'est humilié, il a montré que c'était Dieu le Père qui était son chef. Il est écrit au verset 8, il a appris, bien qu'il soit fils. Ça veut dire quoi, bien qu'il soit fils? C'est écrit fils avec majuscule. Ça veut dire que bien qu'il soit parfait, fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Nous revenons toujours à ce qu'on a dit avant. On est juste, d'accord, mais on a à apprendre qui est le chef. On a à apprendre que Dieu veut habiter en nous pour faire sa volonté. Vous savez, est-ce que l'avion peut se mouvoir de lui-même? Non, le pilote entre et l'avion peut voler. Dieu veut habiter en nous sans interférence, pour faire manifester sa gloire. Et il ne veut pas d'interférence. Et toutes les difficultés que nous rencontrons, il veut nous amener à dire « Que ta volonté soit faite, Seigneur, tu es le chef. » Et nous, on veut résoudre ça par des prières, on fait ceci, on fait cela. Mais Dieu dit « Tu fuis, tu me fuis moi. C'est moi qui te cherche, toi tu luttes contre le diable. C'est moi qui te cherche, toi tu luttes contre tes voisins. C'est moi qui te cherche. » C'est pourquoi il est écrit quoi dans Psaume 112, verset 7? Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Parce qu'il sait qu'à travers les mauvaises nouvelles, qui c'est qui? Qui c'est qui le cherche? C'est Dieu qui le cherche. Dieu veut l'amener plus loin et il se sert des mauvaises nouvelles. Parce que sans mauvaises nouvelles, l'homme finit par se fatiguer de la spiritualité. Il finit par se plonger dans la chair, dans les satisfactions de la terre. Il oublie Dieu. Dieu nous réveille par les malheurs et les mauvaises nouvelles. afin qu'on en soit délivré par sa puissance et qu'on grandisse dans la foi et dans la mission qu'il a préparée pour nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, imitons le Seigneur Jésus, qui était parfait, mais qui devait obéir pour prouver sa perfection, pour montrer que c'est le Père qui était quand même son chef. Il devait obéir. Alors, bien-aimés, disons à Dieu aujourd'hui, je veux que tu habites en moi. Et si en moi il y a des imperfections qui gênent cette habitation, purifie-moi de cela. Je dis bien purifie-moi. On n'a pas dit qu'on purifie ensemble. Non. Il y a des gens qui vont tenter de eux-mêmes. On a connu des gens qui ont arraché les prises de télévision et qui ont acheté d'autres après. Quand il est touché lors d'un culte, il rentre à la maison. Maintenant, moi, c'est dû à 100%. Il prend sa télé, il jette. 3 mois après, il achète une meilleure télé. Voilà. Ça, c'est des trucs sentimentaux. Disons à Dieu. Moi, j'aime dire, Dieu est adulte. Quand on lui dit, il sait lui-même comment il va faire. Donc, disons à Dieu, purifie-moi. Enlève de moi ce qui t'empêche d'être le roi de ma vie. Montre-le-moi. Et Seigneur, aide-moi même aussi à obéir, à discerner ta voix et à obéir, à ne plus embêter mon voisinage, à ne plus accuser les autres, mais à obéir à ta voix. Fais de moi ton temple. Que j'arrête de juger les autres. Que j'arrête de me focaliser sur le diable, mais que je marche avec toi. C'est ce que nous allons dire au Seigneur. Qu'il prenne le contrôle total de notre vie. Je dis, c'est ce qu'on va dire, donc chacun doit décider de le dire. Mais je nous dis, bien-aimés, vaut mieux choisir cela. Vous savez, Mohamed Ali, à 42 ans, il avait déjà la maladie de Parkinson. L'homme n'est rien, bien-aimé. L'homme n'est rien. Autant que Dieu contrôle nos vies. Je sais ce qu'on s'imagine. Je serai privé de ceci ou de cela. Non. Imaginons la gloire qu'on vivra, que Dieu contrôle nos vies. Il nous donnera des goûts nouveaux. Quand le bébé était dans le ventre de sa mère, il mangeait comment? Il mangeait quand même. D'une manière, par le cordon ombilical. Je crois qu'il devait aimer ça. Mais il sort quand même pour vivre des goûts nouveaux sur la terre. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu prend le contrôle de nos vies à 100%, il nous donne des repas nouveaux et des goûts nouveaux. Il ne faut pas être impressionné par les anciens repas et les anciens désirs et les anciens plaisirs. Dieu va nous donner de nouveau. N'ayons pas peur de cela. Disons simplement, Seigneur, soyons honnêtes avec lui. Seigneur, tu vois bien que je suis attaché à beaucoup de choses, mais je te fais confiance. Le juste vivra par la foi. Je te fais confiance, tu me donneras des désirs nouveaux, des goûts nouveaux, mais c'est que moi je veux que tu sois, je sois ton habitation. Bien-aimé, quel honneur! On se retrouve à supplier pour des choses pour lesquelles, au contraire, nous devrions courir après. Nous devions courir après le fait que Dieu habite. En nous, qui ne courait pas après le fait que le président de la République vienne le visiter pendant une semaine? Qui ne courait pas après ça? Mais là, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers. C'est quoi ton argent? C'est rien du tout devant lui. Lui, il est la gloire même. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est quoi ton corps? La gloire de Dieu est supérieure à tout cela. C'est ce qu'a fait dire à Pierre. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous venons te demander pardon parce que tu nous as justifiés gratuitement, mais nous, nous voulons nous sauver par nous-mêmes. Tu nous as justifiés gratuitement, mais nous refusons la suite, qui est que tu prennes contrôle de nos vies. Nous avons repris le contrôle de nos enfants, le contrôle de nos familles, le contrôle de nos voitures, le contrôle de tout, alors que nous savons que c'est ça qui avait fait tomber Adam. Aide-nous à te redonner tout à nouveau, afin que tu y habites et que tu fasses ta demeure. Seigneur, que tous les malheurs qui nous entourent servent à nous amener plus loin avec toi. Que toutes les mauvaises nouvelles servent à te chercher en profondeur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi, c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec. Tu connais mieux que moi-même. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pourtant, pour suprême, tu peux me rendre vainqueur. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, que par ta divine ne flamme, tout mal soit détruit en moi. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Réponds-toi, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oui, Seigneur, prends tout. Fais de nous des instruments d'adoration, des instruments de louange, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons te dire, comme ton fils a parlé à Gethsémané, il a dit que ta volonté s'accomplisse. Ce n'est pas une manifestation de manque de foi, pas du tout, Seigneur. Nous croyons en toi, nous croyons que tu es tout puissant, mais nous voulons te laisser le contrôle de nos vies aussi. En gardant notre foi, nous te laissons le contrôle. Tout en priant que tu nous guérisses d'une maladie, nous venons aussi accepter pendant qu'elle est encore là cette maladie avec joie. Parce que ça contribue à ton processus de purification, ton processus de perfectionnement. Tout en priant pour que tu sauves la Normandie, nous continuons à aimer les gens qui sont mauvais, qui refusent l'évangile, qui négligent l'évangile. Nous continuons à accepter cet état de choses parce que nous savons que tu as un plan, que tu vas l'accomplir. Nous refusons parce que nous avons des projets avec toi de les réaliser par nos propres forces. Nous voulons que ça s'accomplisse par la source que tu es, Seigneur. Comme le chant dit, Seigneur, auprès de toi est la source de la vie. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous, à travers cette prédication, nous avons voulu te dire, Seigneur, nous avons compris. Nous avons compris que le problème, c'est nous. Le problème, c'est moi, Seigneur. Tu veux faire de moi ton habitation. Le problème, ce n'est pas le ministère. Le problème, ça vient après. Mais le premier problème, c'est moi que tu as déjà sauvé. Tu veux habiter en moi, Seigneur. Je veux te laisser habiter et être abreuvé de ta source continuellement. Comme un arbre planté au bord de l'eau. Au nom de Jésus.